17h26, Pierre-Yves McSween est là. Salut, PY.
Salut.
Donc, Desjardins, une clé USB à 108 millions?
Oui, parce que dans le fond, c'est comme ça que le vol a eu lieu. T'sais, on a volé des données avec une clé USB. Et donc, c'est comme une clé USB à 108 millions. C'est le coût que ça va coûter au total, approximatif, si on tient compte de la provision que Desjardins ou Mouvement Desjardins a pris dans ses états financiers. Mais tu sais, sur 2,6 milliards de revenus, c'est pas beaucoup.
Combien ça coûte une clé USB?
Et le, il t'en donne une quand tu t'en vas dans un événement promotionnel, Patrick.
Ben, disons que ça prend beaucoup de stockage, là, ça doit être à peu près une dizaine de piastres.
Mettons, tu peux en avoir une pour 10 $, imagine. Mais Patrick, évidemment, on jouera pas à ça pour rire un peu, mais je te dirais que depuis que c'est arrivé à Desjardins, il y a eu tellement d'autres cas. Equifax et autres. Et là, aujourd'hui, il y a Clearview. T'es artificial intelligence.
Il y en a eu une, oui, Clearview pour les photos, là. Ouais. Mais il y a aussi eu, au ministère de l'Éducation, une fuite qui touche plein de profs actifs et retraités ou qui ont quitté le métier.
Donc, on se rend compte que tout l'argent qu'on a épargné ou toute l'efficacité qu'on gagne en informatique, va falloir l'investir en sécurité, en support, en développement. Et qu'au niveau des contrôles, parce que là, c'est pas un contrôle financier. Tu sais, les banques sont habituées au contrôle financier pour contrôle d'accès. Mais là, il faut mettre en place... Si c'était pas fait, ça doit être fait déjà. Tu sais, des contrôles de détection d'anormalité. Je te donne un exemple. Si quelqu'un télécharge trop de données, si quelqu'un avec son accès fait des transactions qui semblent bizarres, ça aussi, il faut que ça sorte. Et même si ce n'est pas financier, si accès aux données, il faut qu'il y ait un flag quelque part. Il faut que quelqu'un dise, oups, il y a quelqu'un qui est allé à telle place pour telle raison, puis ça prend un accès partout. Donc, il faut revoir tous les contrôles de l'entreprise, les contrôles d'accès, faire des rapports, mettre des consultants là-dedans, et ça, ça coûte cher, et ça explique pourquoi il y a 108 millions aux états financiers. Mais si tu regardes ça, d'un point de vue froid, Desjardins, ça met pas l'entreprise à terre. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, il y a l'effet de réseau. Desjardins est tellement gros, a tellement un réseau étendu, les clients sont tellement les deux mains dans leur institution financière, que c'est normal que tu te dises, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je change d'institution financière, maintenant que c'est réglé, ou maintenant que ça a eu lieu, donc je peux plus changer le passé, mais je peux changer le futur, mais là, j'ai un prêt hypothécaire, j'ai une marge de crédit, j'ai une carte de crédit, j'ai tout ce que j'ai fait en sorte que changer d'institution causerait tellement de troubles que ça fait que Desjardins garde ses membres. Et dans le fond, une fois que tes données ont été volées, si elles ont été volées, même si tu changes d'institution financière, t'es pas plus gagnant, ça va, t'sais, les données ont été volées de toute façon. Alors, tu vois un peu comment Desjardins, dans le fond, va s'en tirer, puis dans un an, ça va être un souvenir.
Un mauvais souvenir. Puis Pierre-Yves, il y a quelques semaines, j'ai fait une entrevue avec un hacker éthique, un pirate éthique là, qui teste la sécurité informatique. Oui, non, ça existe. Lui, ce qu'il fait avec son équipe, c'est qu'il teste des systèmes informatiques, même des intrusions physiques, des fois, dans des entreprises. Et ce qu'il nous disait, c'est que, ça peut arriver à peu près n'importe où. Fait que ça se peut que tu changes, t'es dans une autre institution financière, puis que dans une couple de mois, une couple d'années, ben il y a une fuite là aussi.
Puis il y a aussi que ton ordinateur, ça se peut que tu sois dans un café, que tu accèdes à ton compte de banque, puis il y a un pirate dans le café qui est en train de copier ton écran, et puis finalement, il va avoir accès à tes données financières.
OK, parle-moi de Beyond Meat là, qui va débarquer chez Starbucks.
C'est le fait d'hiver dont je me sers pour te parler de Beyond Meat, parce que dans le fond, Starbucks, oui, avec ses super sandwichs, Patrick, réchauffés au micro-ondes et emballés, va te proposer aussi une solution sans viande, mais avec des œufs et du fromage. Bon, cherchons l'erreur, mais c'est pas grave. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça a fait monter le titre de Beyond Meat aujourd'hui. Mais quand même, Beyond Meat, on a fait un test chez Tim Hortons, on l'a abandonné. Faut arrêter de croire que du jour au lendemain, les mangeurs de viande vont tous virer à Beyond Meat, puis les végétariens vont aller à Beyond Meat. Non, c'est une solution de remplacement pour les gens qui veulent la texture, mais qui veulent plus manger de viande. Mais comme ce n'est pas nécessairement très bon au niveau nutritif, ben il y a peut-être des gens qui vont juste abandonner. Alors, l'espèce d'hypothèse de base que Beyond Meat allait conquérir le marché est pas tout à fait réalisée. C'est pour ça que au niveau de l'action, qui était montée à plus de 200 quelques dollars, là, on est revenu à 113. Oui, on a fait un rendement depuis le début de l'année parce que l'action avait chuté à 75 $. Mais quand tu y penses, la promesse initiale ne s'est pas avérée comme on pensait qu'elle pouvait s'avérer chez certains investisseurs.
Ça te fait-tu un peu penser aux potes, Pierre-Yves? C'est-à-dire que, tu sais, il y a eu un gros buzz là quand c'est arrivé en bourse. Puis là, à l'usage un peu, là, il y a une correction là, qui nous ramène à des proportions plus justes.
C'est un produit agricole. Tu sais, c'est un peu comme Pinterest. Pinterest est rentré en bourse. Tout le monde dit « Ah, Pinterest en bourse, on achète! » Mais finalement, l'action, t'as 20 $ mais t'as 36 $ à un moment donné dans l'année. Donc, tu vois que les IPO, là, les premiers appels publics à l'épargne, c'est bien beau tout ça. C'est bien sympathique. Mais dans la réalité, faut que la réalité financière finisse par rattraper la spéculation et, qu'est-ce que je pourrais dire, l'enthousiasme des investisseurs, Patrick. Ouais. Et c'est pas le cas ici.
As-tu acheté du Beyond Meat?
Non, moi, je suis vraiment pas un acheteur d'IPO, j'en achète jamais. Moi, je suis un acheteur de titres de qualité qui ont fait leur démonstration et d'où je crois à long terme leur potentiel. Je ne suis pas un spéculateur, mais j'ai des gens qui me parlent, qui regardent des analyses techniques de courbe et qui vont me dire « Moi, j'achète du Shopify, pas parce que j'y crois à long terme, mais parce que je pense que spéculer à court terme, c'est payant. » D'autres qui vont acheter Tesla pour spéculer à court terme, mais qui croient pas à la réalité à long terme. Donc, ça dépend des personnes. Mais moi, je suis vraiment une personne qui se dit « Je vise 6-7% en bourse en moyenne et je vise surtout à épargner et à maintenir un portefeuille de qualité. » Mais ça, c'est un choix d'investisseur qui n'est pas le choix d'autres qui font beaucoup d'argent, mais que des semaines comme cette semaine où ça a beaucoup vivoté, ces mêmes personnes-là perdent énormément d'argent. Alors, c'est une question de choix personnel. Quand tu as un horizon de 20-30 ans, tu te laisses pas émerveiller par ce qui est arrivé cette semaine. D'ailleurs, tu vois aujourd'hui, là, petite variation, côté vert, côté rouge, dépendant des indices boursiers, il n'y a rien de spectaculaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça veut dire qu'on a voulu racheter un peu aujourd'hui.
Parfait, merci Pierre-Yves. On se retrouve demain jeudi, 17h33 à venir. Est-ce que ça vous dirait de vivre dans une van de type camionnette? Là, il y a des gens qui font ça, qui sont des nomades des temps modernes. On en parle de cette série. La belle vie avec GoVan, avec les accros.